RFI Midi. Anne Cantner.
Nous en parlions dans le journal. Le fondateur du PKK appelle à la dissolution du groupe. Mouvement armé, kurde, né en Turquie, considéré comme une organisation terroriste par Ankara. Bonjour Bayram Balci.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre de Recherches Internationales de Sciences Po, ancien directeur de l'Institut Français d'Études Anatoliennes à Istanbul. Cela fait 26 ans qu'Abdullah Öcalan est en prison, que son mouvement fonctionne sans lui. Est-ce qu'il dispose aujourd'hui de l'autorité, de l'influence nécessaire pour faire appliquer son appel d'hier ?
Alors oui et non. Oui, parce que Öcalan, c'est comme le fondateur du PKK, le PKK qui a lancé une lutte armée contre la Turquie il y a presque 40 ans de cela. Oui, parce que Öcalan est quand même joué d'une véritable popularité au sein de la, il est très populaire au sein de la population kurde de Turquie, mais même de tous les Kurdes du Moyen-Orient. Il a aussi un certain prestige auprès de tous les 4 ou 5 qui dirigent le PKK depuis son emprisonnement. Mais en même temps, jusqu'à quel point, on verra dans les semaines à venir si il est écouté à 100%, parce qu'on a un doute sur le fait que les responsables du PKK vont accepter de désarmer. Mais a priori, beaucoup de signes montrent qu'on va s'acheminer vers une renonciation à la lutte armée, parce que la réalité sur le terrain montre que le PKK a quand même beaucoup intérêt, pour différentes raisons, politiques, sécuritaires, militaires, à accepter le deal qu'il y est proposé, sachant que la situation politique en Turquie, pour les Kurdes, mais aussi dans la région, a changé. Donc il y a des fortes chances que, dans une large mesure, la demande de Öcalan soit respectée dans les semaines à venir.
Qu'est-ce qui a changé pour que ça devienne plus intéressant pour le PKK de désarmer ?
Alors, ce qui a changé, c'est qu'en fait, au niveau militaire, en fait, le PKK, quelque part, il se retrouve obligé d'accepter le deal parce que c'est dans son intérêt, dans la mesure où, au niveau militaire, il a beaucoup décliné depuis 10 ans. On sait que sur le terrain, depuis 10 ans, il a du mal à réaliser des grands coups comme les autres fois sur le territoire turc. Depuis quelques années, il a des attaques vraiment sporadiques. Ça, c'est la première. La deuxième, au niveau régional, en Syrie, en Irak, je pense qu'il a aussi mis en difficulté. Et surtout, je dirais que au niveau politique, c'est que quelque part, si on regarde les revendications du PKK quand il a été fondé il y a 40 ans de cela, dans une large mesure, il n'a plus de raison d'être parce que c'est comme une organisation qui a pu produire de la guerre froide, pendant la guerre froide, et une partie des revendications ont été acceptées dans le sens où maintenant la question kurde, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a quand même des droits culturels, politiques qui ont été accordés aux Kurdes. Il y a encore des problèmes, mais on a le sentiment en fait qu'une bonne partie des revendications ont été cédé par l'État turc, ça c'est au niveau militaire, et aussi dans la région, le fait que pendant longtemps, le véritable protecteur du PKK, c'était le régime de Bachar, père et le fils, étant donné qu'ils ne sont plus là, étant donné qu'on est dans une nouvelle configuration politique à Damas, le nouveau pouvoir à Damas ne sera pas du tout favorable au PKK, donc de ce fait, il y a une espèce de réalisme de la part du PKK qui accepte de déposer les armes. Maintenant, il faut savoir aussi, il faut voir quelles seront les autres concessions qui seront faites par la partie turque, parce que je pense qu'il y aura des améliorations, probablement sur le statut des Kurdes en Turquie, sur l'enseignement du kurde, probablement aussi sur le nombre de gens qui sont en prison. Certains vont être probablement autorisés à quitter les prisons. Donc tout cela ne fait que commencer. Je pense que dans les semaines à venir, on verra concrètement les développements de ce qui a été décidé par Öcalan, qui est vraiment un événement historique pour la Turquie et pour le Moyen-Orient.
Sur ce point, sur le nombre de personnes qui se trouvent en prison, Abdullah Öcalan n'a pas parlé dans son message des militants, des journalistes, des artistes qui ont été arrêtés par les autorités. Est-ce que vous pensez que ça pourrait lui être reproché ?
Alors, je pense. Alors, d'abord, malheureusement, en Turquie, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais ils ne sont pas tous liés à la question kurde. Malheureusement, il y a toute forme d'opposition en Turquie, malheureusement, est très mal perçue par Erdogan, qui a tendance à mettre pas mal de gens en prison. Mais je pense que ça fait partie du deal quand même, parce que notamment pour ceux qui sont arrêtés pour la question kurde et qui sont en prison depuis 20 ou 30 ans, parce que c'est en tout cas une quarantaine d'années qu'il y a un combat mené par l'État turc contre le PKK. Donc il y a des fortes chances que certains sortent de prison, mais à mon avis, pour lui-même, je ne pense pas, parce que l'opinion publique turque, même s'il a beaucoup changé ces dernières années, n'est pas prête à accepter qu'il sorte complètement de prison. Il y aura probablement une amélioration de ses conditions de détention. Et là-dessus, je pense que la population turque est prête à accepter un sort qui sera amélioré.
Et pour lui, Abdullah Öcalan, il est vraiment, lui, une icône kurde, vous nous l'avez rappelé. Quelle place est-ce qu'il pourrait occuper à l'avenir ?
Oh, je pense que la place qu'il aura, ça sera surtout un chef historique, spirituel, leader politique, charismatique et respecté par les Kurdes de Turquie et au niveau du Moyen-Orient. En Irak, il est populaire, en Syrie. Les Kurdes de Turquie et de Syrie sont à peu près les mêmes parce que c'est souvent les Kurdes de Turquie qui dirigent la vie politique des Kurdes de Syrie. Donc c'est quelqu'un qui est respecté parce qu'il a fait avancer la question kurde, certes par la violence, par le terrorisme, mais il est quand même respecté. Et même une partie de la population turque le respecte, ceux qui sont de gauche, qui sont conscients du fait qu'il y a eu beaucoup d'injustice vis-à-vis de la minorité kurde. Donc à ce titre, je pense qu'il jouira d'un certain prestige, mais ça n'aboutira pas jusqu'à sa sortie de prison. Je pense qu'en Turquie, les conditions actuelles ne sont pas prêtes et ne le seront jamais. Par contre, ce qu'on peut espérer pour lui, c'est que probablement il sera dans une espèce de maison-prison sur l'île de İmralı, dans la mer de Marmara, et avec accès à une télévision, une bibliothèque, des livres, et une possibilité de travailler, mais je ne pense pas qu'il puisse quitter l'île.
Est-ce qu'il y a d'autres figures qui ont émergé plus récemment au sein du PKK et plus largement de la communauté kurde, que ce soit du côté de la branche armée ou bien de la branche politique ?
Alors, au niveau de la branche politique, la question kurde en Turquie, la politique kurde en Turquie est vraiment très complexe. Il y a toute une galaxie d'organisations qui sont plus ou moins liées, proches ou sympathiques ou complètement dépendantes du PKK. Mais d'une manière synthétique, je dirais qu'il y a le PKK qui est dans les montagnes de Kandil. Là, il y a quatre responsables proches, collaborateurs de Öcalan qui dirigent le PKK depuis qu'il est arrêté, depuis qu'il était en prison. Mais en Turquie même, vous avez quand même le parti pro-kurde, qu'on appelle le DEM Party, qui est un parti quand même assez important, puissant. C'est quand même la troisième force politique du pays, ce n'est pas rien. Et à côté de ça, vous avez beaucoup d'associations, de centres culturels, de fondations qui sont liées à la cause kurde et qui, certes, malheureusement, n'ont pas toutes les libertés qu'elles espèrent, mais il faut espérer que dans les semaines à venir, il y aura un relâchement de la pression sur les organisations kurdes. Et je pense que ces dernières semaines, on a eu un mouvement un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait une ouverture sur la question kurde, mais à côté de ça, en parallèle, il y avait des arrestations. Et c'est assez classique en Turquie, dans le sens où chaque fois qu'il y a une tentative d'ouverture sur une question, en même temps, il y a des arrestations, parce que c'est aussi une façon de rassurer l'opinion publique turque, pour dire qu'on ne fait pas de concessions sur la sécurité de l'État. Et je pense qu'il fallait faire ces arrestations, malheureusement, pour justifier la récente ouverture qui a été déclenchée il y a 2 jours. Et il faut espérer que dans les semaines à venir, cette ouverture soit concrétisée et des conséquences concrètes, c'est-à-dire des gens qui sortent de prison avec plus de droits pour les Kurdes. Et le processus est lancé. Je pense que dans les semaines à venir, ça va se développer.
Merci Bayram Balci, chercheur au Centre de recherches internationales de Sciences Po.